Allô tout le monde, bienvenue à notre émission destinée à parler des organismes communautaires, de ces artisans et de leur réalité. Si je vous parle à chaque mercredi, c'est que les organismes communautaires autonomes qui sont ici dans la région, qui sont membres de la Troquel, ont décidé de mettre en œuvre un plan de rayonnement et de mobilisation. Puis notre objectif de ce plan-là, c'est de faire connaître davantage l'importance des organismes communautaires autonomes, puis de rassembler le plus grand nombre de citoyennes et citoyens qui s'engagent avec nous dans la campagne. Et là, je vais vous le dire, il y a un pic là. C'est vraiment excitant. La semaine dernière, on était 144 personnes à avoir embarqué dans la campagne. Et là, depuis hier, on est 222. Boum! En 3 jours, ça a augmenté. Si justement, vous aussi, vous trouvez que c'est important, les organismes communautaires autonomes, qu'ils soient davantage connus, surtout davantage valorisés et soutenus financièrement, vous pouvez embarquer avec nous dans la mob. C'est simple, il suffit de se rendre au troquel.org/mob. Cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide. Et justement, la question de la semaine est en lien. Quel geste d'ouverture pouvez-vous poser face à la détresse des personnes autour de vous? Et ça, ben, vous pouvez aller y répondre sur la page Facebook de la Troquel. Et là, tout au long de l'émission, vous pouvez aussi interagir avec moi sur le Messenger de la Troquel ou au radio@commercialtroquel.org. Et là, aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai le bonheur d'avoir Nathalie, qui est la coordonnatrice de la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de la Nadière. Allô, Nathalie?
Bonjour, Hugo. Bonsoir.
Oui, il est un petit peu tard. T'es en studio, c'est pour parler avec moi de défense collective des droits. Parce que il y a une semaine d'action en ce moment qui a lieu ici dans la Nadière, mais partout au Québec. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de... Ben, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, la défense collective des droits?
Ben, d'abord, la table de concertation régionale, sa mission... essentiellement, c'est la défense collective des droits, donc ça fait partie de notre quotidien. Et pour nous, en fait, de façon générale aussi, je dirais, la défense collective des droits, c'est l'addition de plein de situations, de défis que les gens, auxquels les gens sont confrontés, qui sont similaires, puis on prend tout ça, on en fait un dossier commun qu'on peut défendre, en fait, de façon plus collective. Donc, peu importe le comment on réalise la défense collective des droits, ça demeure toujours la force puis le poids du nombre, en fait, qui permettent de travailler dans l'intérêt de l'ensemble de la population qui est concernée par la problématique.
Est-ce que tu dirais, Nathalie, dans le fond, dans la façon que tu l'expliques, c'est un peu un passage du « je » au « nous » de la défense collective des droits?
Absolument. C'est mon besoin. On passe de mon besoin à moi ou de mon défi au défi d'un groupe de personnes, de plusieurs individus qui vivent la même situation, de ma réalité à notre réalité, puis de mes droits aux droits de toutes les personnes handicapées. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait dans l'intérêt collectif, l'intérêt du plus grand nombre de personnes. Donc, c'est vraiment important de le faire, mais tout d'abord, il faut pouvoir observer et comprendre ces atteintes aux droits-là qui sont malheureusement le lot quotidien de plusieurs personnes.
Oui, puis il y en a beaucoup parce que dans la défense collective des droits, c'est au sens large. Là, les droits, c'est pour les personnes de toutes les catégories. Vous, spécifiquement à la TCRA PHL, on est dans le secteur personnes handicapées. On a eu la chance d'en parler souvent, toi et moi. Mais comment ça va en termes de droits? Est-ce que les personnes handicapées, ça va mieux? Est-ce que ça progresse? Est-ce que c'est le statu quo? Comment ça se vit?
Est-ce que ça progresse? Assurément, sur certains points, on peut observer, on doit observer des éléments qui vont mieux, qui évoluent. Par contre, ces dernières années, on a aussi observé plusieurs reculs et on a dû mener des batailles dans des dossiers qui, pour nous, étaient des acquis, en fait. Puis donc, entre autres, au niveau de la compensation des coûts liés aux déficiences, on a failli perdre cet élément-là dans les travaux récents du ministère au niveau de la politique soutien à domicile. On a finalement gagné notre point, mais on n'a jamais passé aussi près de perdre un élément qui, depuis 88,
oh mon Dieu, était, OK, depuis de nombreuses années,
était pour nous comme un acquis.
Ben
donc,
oui.
Puis ça impactait l'ensemble ou presque des personnes handicapées et de leurs proches. Donc, non, il y a vraiment des reculs importants, puis faut être très, très vigilant parce que c'est de plus en plus insidieux. C'est donc par des petits changements dans des politiques, des engagements de certains ministères ou instances qui se font un petit peu moins sentir. Donc, il faut être très vigilant, mais surtout, il faut que les gens signifient les situations dans lesquelles leurs droits sont lésés.
Oui, parce que s'ils nomment pas, on peut pas le déceler.
Absolument. Puis c'est, en fait, c'est vraiment la somme de toutes ces situations-là qui nous font dire, ben là, non, là, ça fonctionne pas. Donc, il faut intervenir. Parfois, c'est au niveau local, régional, mais parfois, on utilise nos différents partenaires au niveau national parce que ça va au-delà de notre région. Là. Donc, heureusement qu'on a des collègues dans toutes les régions qui embarquent un peu dans le mouvement. Donc, ça fait davantage de force pour les dossiers de défense collective de droits.
Dans le fond, t'expliques un peu le mode d'intervention.
Absolument.
De la défense collective des droits. Cette idée-là de, bon, ben, on part d'un besoin qui est illustré d'une situation, d'une problématique. On la partage après ça avec d'autres personnes. Ben, ces personnes-là, ensemble, peuvent en parler à un organisme, les organismes.
Absolument. C'est généralement la voie qui est utilisée. Nous, on regroupe des organismes de personnes handicapées de la région. Eux sont témoins au quotidien ou écoutent, entendent des situations que vivent leurs membres, puis on peut collectiviser, en fait, ces situations-là, essayer de trouver des voies de passage pour travailler ces dossiers-là. Parfois, on réussit à travailler avec nos partenaires pour améliorer ces situations-là, mais d'autres fois, ça appelle vraiment à des mouvements beaucoup plus vastes et nationales,
oui.
Parce que c'est dans les ministères, en fait, que doit être initiée cette volonté-là de respecter les droits des personnes handicapées, mais en fait, tous les droits.
Oui, humains.
Des personnes, voyons.
Ben exact. Là, voilà. on met la loupe là, sur
oui,
la situation.
Ça, je suis dans mon petit carré de sable.
Ben oui.
Mais en fait, ça n'exclut pas de toute façon qu'une personne handicapée peut avoir des droits lésés dans plein d'autres aspects que...
Exactement, puis ça, ben c'est l'approche globale en action communautaire autonome. Là, on parle de la personne handicapée, mais elle peut être une femme, elle peut être une personne LGBT. Exactement. Dans le fond, quand on parle de défense collective des droits, les organismes, ultimement, ils existent, puis là, ils revendiquent ces droits-là face au gouvernement qui les finance. C'est quand même spécial, cette réalité-là.
Ben, pas du tout.
Okay.
En fait, je pense pas que les organismes en soi, je pense que ça dérange plus les bailleurs de fonds, en fait, que les organismes. Les organismes ont pas cette sensibilité-là de mordre la main qui les nourrit. Je pense que quand c'est le temps de mordre, on sort les dents, on mord. Mais je conviens avec toi que ça peut... ça peut...
titiller, ça
ben,
peut...
En fait, ça peut influencer les façons dont on va faire cette défense de droit-là. Mais comme la défense de droit, elle s'appuie comme base, en fait, des lois, des décrets, des circulaires des ministères...
Des politiques...
C'est difficile de contredire ce qui est... avancer, en fait, tu sais, parce
tellement.
Que je pense que la défense collective des droits, elle doit s'appuyer d'abord, bon, oui, sur des faits objectifs, mais sur des lois, c'est ça notre levier. Donc, après ça, le bailleur de fonds, ben, il peut pas dire, oh, ben là, la loi, non.
Ben, exactement.
La loi, c'est là pour être respectée.
OK, Nathalie, on s'en va en musique. On va écouter la chanson « Je serai là » et on revient après cette petite pause musicale pour parler des enjeux en ce moment en défense collective des droits. Donc, bonne pause musicale.
Les chemins sont pavés de peur et de galères, mais ne t'en fais pas, moi je serai là. Quoi que l'on dise, la vie est extraordinaire, il suffit d'y croire et je serai là. Tomber pour ensemble remonter. C'est ça l'amitié. À deux, c'est plus facile. Se chercher, parfois tout quitter pour mieux recommencer. C'est aussi ça la vie. Souviens-toi quand plus rien ne va et que tout se brise, le temps cicatrise. Souviens-toi là où tu iras, que même dans le pire, le meilleur est à venir. Les chemins sont pavés de peur et de galères, mais ne t'en fais pas, moi je serai là. Quoi que l'on dise, la vie est extraordinaire. Il suffit d'y croire et je serai là. Et je serai là, je... Même si on s'est perdu de vue, qu'on n'aurait pas dû. Nous deux, c'est plus fort que le temps. Nous deux, c'est plus fort que le temps. Ensemble, on est géants. Souviens-toi quand plus rien ne va et que tout se brise, le temps cicatrise. Souviens-toi là où tu iras, que même dans le pire, le meilleur est à venir. Les chemins sont pavés de peur et de galères, mais ne t'en fais pas, moi je serai là. Quoi que l'on dise, la vie est extraordinaire. Il suffit d'y croire et je serai là. Moi je serai là. Tomber pour ensemble remonter, c'est ça l'amitié. À deux c'est plus facile.
Tomber pour ensemble remonter, à deux c'est plus facile.
Les chemins sont pavés de peur et de galères, ne t'en fais pas, moi je serai là. Quoi que l'on dise, la vie est extraordinaire. Il suffit d'y croire et je serai là.
Vous êtes à l'écoute de C'est ça la CA, une émission qui fait un tour d'horizon sur les organismes communautaires autonomes. Et je suis en compagnie toujours de Nathalie de la TCRA PHL. Et là, Nathalie, grosse question. Quelles sont les revendications des organismes en défense collective des droits?
Ben, on a des droits, mettons, je suis dans mon terrain de sable, de personnes handicapées. On a quand même la, on va dire, la chance d'avoir une loi.
Okay.
Spécifique, la loi, en fait, qui encadre les droits des personnes handicapées. C'est une politique, en fait, et qui vraiment vient engager les différents ministères, engager différentes instances à respecter des lois, à s'engager dans l'inclusion des personnes handicapées. Donc, on a vraiment un levier provincial sur lequel on peut travailler. Mais... il y a beaucoup de travail à faire quand même, ne serait-ce au niveau de l'inclusion des personnes handicapées, l'accès aux différents services. Les dossiers sont nombreux, le logement, l'accès au logement, inclusion scolaire, tout ça, c'est des dossiers où il y a vraiment un problème, des problèmes de respect des droits.
OK.
Au quotidien, malheureusement.
Oh. Est-ce que, juste par curiosité, je la connais pas, cette loi-là, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle est figée depuis des années?
Comment... ben, en fait, elle a été rédigée, en fait. Elle est née en 1978.
OK.
Et il y a eu quelques mises au goût du jour en 2004. Puis donc, il y a des travaux quand même qui se font périodiquement pour analyser, en fait, qualifier, en fait, les mesures qui sont, puis les engagements. Donc, périodiquement, il y a ce travail-là qui est fait au national. Donc, oui, il y a une mise à jour, il y a une évolution qui se fait, mais ça manque encore beaucoup de mordant.
OK. Dans le fond, on est un peu dans l'orientation, mais sans nécessairement les actions concrètes.
Il y a des actions quand même concrètes.
OK.
Par contre, c'est ça, il y a un peu de laxisme. Si je
dans l'application.
Dans l'application et dans les suivis aussi de ces fautes-là de différents ministères là, au niveau du respect des droits des personnes handicapées. Il y a toujours place à amélioration.
Ça, assurément. Est-ce que cette loi-là, elle est fédérale ou provinciale?
Provinciale.
Mais j'imagine que le fédéral doit aussi impacter les personnes handicapées.
Ben, en fait, il y a des droits des personnes handicapées au Canada, puis il y a aussi quand même les droits des personnes handicapées à l'échelle internationale au niveau des Nations Unies. Donc, c'est différentes strates auxquelles on peut se rattacher, c'est différents leviers. Bien évidemment, faut toujours voir de quelle juridiction, en fait, le droit
retourne.
Donc, s'adresser aux bonnes instances, c'est toujours la meilleure stratégie. Bonnes instances et bonnes personnes.
Oui, pour porter.
Ces instances-là, c'est très important.
Et là, en défense collective des droits, là, peux-tu me parler des motifs qui vont amener les personnes à décider de sonner la cloche puis dire, OK, là, au niveau des droits, ça marche pas?
Ben, en fait, les personnes handicapées ou les proches de personnes handicapées vont être confrontées au quotidien à différents inconforts, différents freins dans leur participation sociale, par exemple. Donc, ils vont, de façon assez générale, s'en plaindre. Puis, heureusement qu'elles le font. Oui, avec raison, tout à fait. Mais heureusement, puis elles doivent le faire parce que souvent, il y a une crainte d'être un peu punie, de s'être plaint de certaines situations, alors que c'est très, très rarement le cas. Donc, on doit travailler avec les personnes pour qu'elles puissent nommer ces éléments-là. Parfois, c'est juste d'ajouter des places de stationnement supplémentaires réservées aux personnes handicapées. Ce que ça fait pas référence à un droit nécessairement, mais
ça change
c'est important
le, oui,
de le savoir
le quotidien.
Parce que ça améliore la qualité de vie des personnes handicapées. Mais tu sais, il faut que les gens s'adressent. Puis généralement, ils connaissent bien les organismes communautaires dans lesquels ils gravitent pour des activités ou des services. Donc, c'est important de le mentionner. Puis c'est de cette façon-là qu'on va réussir justement à mutualiser des situations, collectiviser des actions pour améliorer ces différents
défis-là,
en fait, aspects auxquels les gens sont confrontés, les freins.
Puis là, j'aime la liste là, des aspects, hein, les dossiers qui impliquent cette représentation-là. Veux-tu nous en présenter juste pour faire un portrait, là?
Ben, écoute, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, au niveau de l'hébergement communautaire, donc de l'accès à des logements, ne serait-ce qu'accessibles.
Ouais.
De façon architecturale comme de façon financière, hein, c'est un défi. Mais quand on a besoin en plus de services au quotidien, là, on ajoute une strate supplémentaire aux difficultés. L'inclusion scolaire, la transition école-vie active, donc pour les gens qui sont scolarisés jusqu'à 21 ans, après...
C'est le vide.
On a une vie. Hein?
Ben oui.
Fait qu'on veut qu'elle soit la plus active possible. Le travail, l'inclusion dans les services de garde pour les tout-petits, ça s'est beaucoup amélioré, mais il y a encore énormément de travail à faire là. Le soutien à domicile, soutien à la famille, pour tous les proches de personnes handicapées. Il y a encore plein de défis. Puis, la concertation, c'est aussi un enjeu. Puis, je dirais, au niveau de la défense collective des droits, un des gros enjeux, c'est la mobilisation. Il faut vraiment faire mobilisation 101. Puis, je sais pas si c'est 101 ou 1001, on ne sait pas ce qu'on en est. Mais faut faire autrement, faut respecter les capacités des gens à se mobiliser. Faut s'assurer...
Oui, parce qu'il faut qu'ils soient partie prenante, les personnes...
Absolument, faut s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'on est en train de faire, qu'ils en fassent partie intégrante de cette façon-là. Puis tu sais, c'est de l'éducation populaire.
Ben oui, absolument.
Ça part par là, c'est de dire ton problème, c'est aussi le problème de l'autre. Donc, on va travailler pour toutes les personnes qui vivent cette situation-là. On le fait comment? Donc, travailler avec les gens, c'est la meilleure garantie de mobilisation. Puis c'est essentiel pour faire de la défense collective des droits. si Nathalie Marcotte, elle écrit une lettre puis elle l'envoie.
Ouais, ça n'a pas le même poids.
Absolument pas.
Que la personne
on
qui
on l'a toujours dit, puis en fait, puis on veut pas que ce soit du sensationnalisme.
Non, non, mais juste
que... Ça fasse la première page des médias, c'est pas ça qui est souhaité, mais c'est qu'on doit porter un message, puis s'assurer que les gens qui vivent aient tous les outils pour se représenter aussi eux-mêmes. Ça, c'est aussi un élément important,
super important.
Mais qui se travaille, qui se pratique, qui se soutient. Donc, souvent, les organismes de base vont travailler de cette façon-là, accompagner les gens, mais c'est les outiller pour qu'ils puissent vraiment représenter...
les personnes.
Oui, exactement.
Et là, ben, on est en semaine d'action pour la défense collective des droits. Et j'ai envie de dire, ben, il y a tout l'enjeu de financement pour les organismes en défense collective des droits, des subventions qui sont pas rehaussées. Pas d'indexation du financement. Donc, ça veut dire qu'il y a des organismes qui ont le même montant depuis plusieurs années, mais tous les enjeux d'indexer les salaires, des augmentations, les besoins augmentent, on veut plus de capacité pour répondre. En ce moment, c'est pour ça cette grosse mobilisation-là.
Oui, en fait, d'année en année, le fait justement que ce soit pas rehaussé, indexé, ça porte préjudice à l'organisme, mais aussi... aux artisans qui y travaillent ou qui s'y impliquent. Donc, c'est super important. Puis, pour voir, tu sais, dans notre cas où c'est notre mission principale, mais réaliser 100% de la mission dans tous les dossiers qui nécessiteraient notre intervention, bien...
Là, il y a des limites à cause
bon
de...
Bon an, mal an, là, c'est un 100 000, tu sais, qui manquerait à un budget, tu sais, en fait, qui est plutôt limité.
Quand même.
On s'en plaint pas.
Non, non.
Mais ça ne nous permet pas de réaliser 100% de notre mission puis d'être présent dans les dossiers de nos organismes membres qui portent eux aussi. Donc, on est, tu sais, ça fait en sorte que les organismes en défense collective des droits, ils doivent prioriser et ils sont limités dans leur capacité d'action. Puis ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est par là, tu sais, on le disait au début.
Ben oui.
C'est par là que passe le développement.
Exactement.
En fait, des services d'activités pour répondre aux besoins. Mais c'est aussi par là que passe le respect des droits des personnes handicapées et de leurs proches.
Nathalie, merci tellement d'être venue en studio pour qu'on parle de la défense collective des droits. C'est sûr qu'en 2026, tu reviens. On a tellement de dossiers, de sujets qu'on peut discuter. C'était vraiment un plaisir. Nous, on continue en musique. Et après, on va aller jaser avec le Centre de prévention du suicide de la semaine de prévention du suicide ici dans la Nodière.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Paroles, paroles, paroles. Paroles, paroles, paroles. Paroles, paroles, paroles. Paroles, paroles, paroles. Encore des paroles. Encore des mots. Bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Paroles, paroles, paroles. Jouer au Super Radio Bingo de CFMJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux. Et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFMJ à Saint-Ambroise de Kildare, Garage Omer Grégoire, Dépanneur au Petit Bourgeois, Dépanneur Kildare, Dépanneur Proxy Extra, à Sainte-Béatrix, Boulangerie Sainte-Béatrix, le Dépanneur Lac-Vallée enregistré, à Saint-Ligory, Dépanneur des Rapides, à Lanoraie, Dépanneur 5 Montagnes, Dépanneur La Fortune et Cille, Family Prix Julie Bourgeois, à Saint-Thomas, Arnois Proxy Saint-Thomas, Family Prix Santé Coulombe et Parents, et à La Valtrie, Dépanneur Buissière et Dépanneur Bonissoir sur la rue Notre-Dame. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
La Semaine nationale de la prévention du suicide se déroule jusqu'au 7 février. Cette année, le thème régional « Ensemble, tissons l'espoir » circulera dans tout Lanaudière. Tu es inquiet pour un proche ou tu penses toi-même au suicide? Joins en tout temps un intervenant du Centre de prévention du suicide de Lanaudière au 1-866-APPEL. 1-866-277-3553.
991 au 99.1 88.9 CFNJ. Vous écoutez C'est ça la CA avec Hugo Valiquette.
Alors, on revient de la pause musicale et là, dans l'émission C'est ça la CA, on va parler d'un sujet super important grâce à la semaine de prévention du suicide que l'on vit actuellement. Et pour en parler, j'ai deux invités. Bonjour Joyce, bonjour Céleste.
Bonjour Hugo.
Vous êtes du Centre de prévention du suicide de Lanaudière et là, ben, on va commencer par démystifier. Puis c'est Joy, je pense que tu vas me répondre à ça. C'est quoi le Centre de prévention du suicide de Lanaudière?
Ben, c'est un organisme communautaire autonome qui dessert toute la région de Lanaudière, incluant Manawan. L'organisme existe depuis 2000. Sa mission est d'intervenir auprès des personnes ou des groupes qui sont aux prises avec une problématique reliée au suicide.
Quand on parle de la, ça c'est la mission, mais c'est quoi le genre d'activité ou de service que le CPS peut offrir?
Il y en a plusieurs, dans le fond. On a des activités où on vient mobiliser la population. La Semaine nationale de prévention du suicide en est une. Un exemple, la Journée mondiale de prévention du suicide aussi. Notre colonne vertébrale, si on peut dire, l'élément majeur de notre ressource, c'est d'offrir une réponse d'intervention téléphonique par une ligne qui, entre autres, est provinciale, le 1-866-APPEL, ou si on préfère, le 1-866-277-3553. Et notre ligne locale qui est le 450-759-6116. Dans le fond, on assure cette réponse téléphonique-là 24 heures par jour, 7 jours semaine. Et la ligne d'intervention s'adresse aux personnes qui sont en détresse, à leur entourage, aux personnes endeuillées par suicide, mais aussi aux intervenants ou à toute autre personne là, qui est touchée de près ou de loin par la problématique. Dans le fond, notre équipe d'intervention est spécialisée en prévention du suicide. Donc, on répond à tous les appels qu'on reçoit de façon confidentielle, mais pas anonyme. Donc, okay. Les gens, on les invite à se nommer, l'intervenante se nomme aussi et l'intervention se déroule selon le besoin des personnes. On offre aussi des rencontres pour les personnes endeuillées par suicide. On a entre autres un groupe d'accompagnement pour adultes, mais on a aussi du soutien parental pour les enfants endeuillés par suicide. Lié au deuil par suicide, on a un outil qu'on a créé qui s'appelle le passeport soutenir le deuil par suicide. Dans le fond, souvent, quand on côtoie une personne endeuillée, on est souvent mal à l'aise, on sait pas trop, on doit parler ou pas de la personne décédée, de tout ce qui est vécu autour de ça. Quand on parle d'un décès par suicide, souvent les gens sont encore plus mal à l'aise à ce niveau-là. Donc, on a créé un outil qui s'adresse non pas aux personnes qui vivent le deuil par suicide, mais aux gens qui entourent les endeuillés par suicide.
Oh wow.
Pour les aider à les accompagner, dans le fond, les soutenir selon leurs limites aussi.
Oui, parce que, Joyce, c'est, tu le nommes, ça reste tabou quand même parler de suicide encore aujourd'hui en 2026, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, malgré tous les efforts qui sont faits. J'ai l'impression que quand on rentre dans cette thématique-là, il y a tout le temps un malaise qui nous habite. On se sent maladroit des fois ou on va se dire c'est quoi les bons mots. C'est intéressant de savoir que ce projet-là existe. Puis j'imagine que ça, tout le monde y a accès. On peut se rendre sur le site web ou c'est accessible.
Oui, on a une version papier puis on a en effet aussi une version numérique là, sur notre site web, donc accessible à tout le monde. On offre des services de postvention. Dans le fond, la postvention, c'est l'intervention après un suicide. Donc, on offre des services dans des milieux où il y a eu un décès par suicide, les familles, les milieux, là, ça peut être une entreprise, une école, un milieu de travail, donc tous les milieux qui sont touchés. Là, si on parlait du deuil par suicide, mais si on revient dans le volet de la prévention, quand plusieurs personnes de l'entourage de quelqu'un qui est en détresse, donc quand plusieurs personnes de cet entourage-là sont mobilisées autour d'une personne qui pense au suicide, on peut les rencontrer pour établir avec eux un plan d'action pour aider la personne en détresse.
Fait que ça, c'est l'équivalent de créer un genre de filet social autour de la personne avec les gens qui se sentent concernés, qui sont dans l'entourage, qui sont proches.
Oui, puis dans le fond, les gens se partagent l'information qu'ils ont chacun, puis selon leur lien avec la personne, ce dans quoi ils sont plus à l'aise, ils vont se répartir certains rôles, vont être à l'affût plus, mais en étant justement les uns avec les autres là, un filet social là, de sécurité. Puis pour justement aussi l'entourage de personnes qui pensent au suicide, on a créé le passeport pour la vie, qui est un petit document qui répond à des questions de base, disons, pour savoir comment aider quelqu'un qui pense au suicide. Donc, ça va autant aider à avoir quelles questions poser. Ça va venir toucher à des tabous pour les démystifier, dans le fond. Et ça aussi, on l'a en format papier. Puis on l'a en format numérique, puis le format numérique a même des compléments d'information, va un peu plus loin dans l'information offerte. On offre de la formation aussi pour des intervenants de différents milieux et aussi là, d'autres types de personnes comme, admettons, des pharmaciens ou d'autres types de personnes qui, quand même, dans leur pratique de travail, là, peuvent côtoyer des personnes suicidaires.
Donc, j'imagine le milieu communautaire, le milieu public, le milieu privé. Donc, des gens qui sont, en relation d'aide, relation avec la personne qui, j'imagine, des gens qui, des fois, reçoivent les confidences, en tout cas, peut-être plus pointues.
Oui, dans le volet de la formation pour des intervenants, effectivement, là, ça va être dans le cadre du travail des personnes là, qui ont un rôle à jouer et qui vont être en contact avec des personnes là, qui... à une fréquence qui peut varier, là, mais ouais. Avec des personnes qui peuvent être en détresse. Mais quand, justement, on est dans des milieux où ce ne sont pas des intervenants, mais quand même qui sont des milieux où des gens peuvent être en détresse, on voit au déploiement et au maintien des programmes de sentinelles en prévention du suicide. Dans le fond, des sentinelles, Hugo, avant que tu me le demandes, ce sont des adultes volontaires qui vont être formés pour détecter des personnes en détresse et les accompagner, les référer vers des ressources. Donc, on parle de réseaux de sentinelles, puis on a des réseaux de sentinelles dans des entreprises, dans des écoles, dans différents types d'organisations, des attachés politiques, donc plein de types de personnes là, qui sont interpellées par la problématique puis qui sont prêts à agir là, tout en étant soutenus, parce que notre rôle, c'est aussi de soutenir les sentinelles en prévention du suicide. On a créé il y a quelques années une chaîne YouTube qui s'appelle une chaîne de gars. Dans le fond, les hommes sont ceux qui se suicident le plus là, dans les personnes là, qui décèdent par suicide au Québec. Donc, on a créé une chaîne de gars qui vise à favoriser l'entraide au masculin en permettant à des hommes qui ont traversé une crise suicidaire de partager leur savoir expérientiel, là, l'expérience qu'ils en ont fait, avec d'autres hommes qui pourraient en avoir besoin. Fait qu'on a deux types de vidéos sur notre chaîne. Des vidéos, justement, où des hommes témoignent de ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui les a aidés, leur cheminement, dans le fond. Et un autre type de vidéos qui sont sur des ressources qui peuvent être utiles aux hommes. Et dans ces vidéos-là, on voit justement un homme qui a utilisé la ressource, jumelé à un intervenant qui ou une intervenante qui y travaille pour parler de la ressource.
Parce que j'imagine que c'est ça. Encore, on se dit, aller chercher de l'aide, ça reste ça demande encore beaucoup de courage, puis c'est pas inné. Puis là, pour avoir parlé, entre autres, avec le centre de ressources pour Rome, on disait l'intervention n'est pas la même. On aimerait ça, là, que ce soit uniforme, mais non, quand on est un homme ou quand on est une femme, on va pas chercher l'aide de la même façon. Donc, l'idée, c'est de démystifier ça pour les gars, comme tu dis.
Oui, puis dans le fond, c'est une forme d'entraide qu'on rend accessible là, par la chaîne YouTube. C'est pas toujours évident, justement. Des fois, on le sait pas, mais quelqu'un pas si loin de nous a traversé une crise suicidaire dans sa vie ou a été proche de quelqu'un qui a traversé une crise suicidaire, mais on le sait pas nécessairement. Donc, c'est sûr, c'est pas un sujet là, qu'on discute à tous
comme
les jours.
Comme ça, à table, non au souper, là.
Non, c'est ça. Fait que, dans le fond, la chaîne YouTube, ça permet ça de rendre accessible tous ces hommes-là qui témoignent, parce que dans le fond, on en a plusieurs hommes qui ont accepté de faire ces vidéos-là, puis on continue. Notre projet, c'est toujours d'ajouter d'autres vidéos sur des ressources ou sur d'autres thèmes liés à la crise suicidaire. Ces hommes-là ont cette générosité-là, le désir profond, dans le fond, d'aider d'autres hommes pour qu'ils puissent mieux traverser, disons, cet épisode-là qu'eux ont bien connu là. Fait que c'est pour ma part, moi je trouve ça très touchant là, à ce niveau-là.
Oui, t'en parles, puis j'ai le sentiment d'entraide, une forme de solidarité, dire je m'expose, hein, parce que ça prend du courage, j'imagine, prendre parole sur dire ben oui, j'ai traversé cette période-là. C'est en tout cas moi ça me touche.
Mm. Ouais. Fait qu'on est fiers de ça, honnêtement. Puis bon, dans le fond, j'ai présenté là la majorité de nos services. On a d'autres activités qu'on peut faire aussi, comme on tient des kiosques d'information dans des lieux publics. Puis c'est important de savoir que quand on fait des kiosques, nous, on n'est pas là pour ramasser de l'argent. On veut pas ramasser de l'argent dans des kiosques. On est vraiment là pour distribuer du matériel promotionnel, faire connaître l'organisme, encourager la demande d'aide. Ou encore l'entraide entre les gens. Donc, c'est pour ça qu'on fait des kiosques. Puis, on peut aussi rencontrer des groupes de personnes là, parfois là, pour échanger sur nos services, expliquer ce qui va faciliter aussi des fois la demande d'aide parce que des gens se font une idée de ce que ça peut représenter, appeler au centre de prévention du suicide. Puis, on vient démystifier ça aussi. Par exemple, là, parce que je trouve ça important de le nommer.
Ah oui, vraiment. Puis ça, c'est, on dirait que c'est autant entrer dans un organisme communautaire, des fois ça demande une forme de courage, mais appeler, c'est aussi parfois difficile. Fait que cette idée-là de le rendre accessible, quand vous appelez au centre de prévention, ça va ressembler à ça, ça permet de se projeter.
Oui, parce que les gens pensent souvent que on appelle la police régulièrement, puis c'est rare qu'on le fait dans une année, parce que notre travail, justement, c'est d'aider la personne à désamorcer cette crise-là. Puis nous, on croit vraiment que les gens ils ont les ressources, dans le fond. Puis nous, on les aide à mettre ça en lumière. Dans le fond, les gens, après, peuvent traverser la crise suicidaire avec les ressources qu'ils ont déjà, en nous utilisant aussi tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment très exceptionnel qu'on fait appel aux policiers. Naturellement, il arrive parfois qu'on doive le faire, mais c'est un préjugé, je peux dire, à notre endroit quand les gens pensent qu'on appelle les policiers à tout bout de champ. C'est très rare.
Ah, c'est un beau tour d'horizon. Puis merci d'avoir pris le temps aussi de les démystifier, ces activités, services-là. C'est une intervention qui est quand même assez spécialisée. Puis comme on le dit, par le sujet qui est quand même difficile à aborder, ben je trouve que on vient le rendre encore plus humain de la manière que tu l'as présenté, Joyce. On va s'en aller en musique et ensuite avec Céleste, on va parler de la semaine de prévention du suicide dans laquelle on est actuellement.
Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruisent ton langage. tu chantais plus fort dans ton silence. Je voyais les larmes couler, toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour vient pas, dans la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. J'ai voulu calmer ton souffle qui s'étouffait, des courses vers le vide, ton rire qui soupirait. Si tu mets le cap vers tes eaux restant troubles, je serai le phare qui te guidera toujours. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie est de noir, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Et si la terre est sombre,
à l'écoute de l'émission C'est ça l'ACA, une émission qui vise à vous faire découvrir l'action communautaire autonome, ses organismes, ses artisanes et ses artisans. Et là, en pleine semaine de prévention du suicide, on va continuer la discussion qu'on a entamée dans le bloc précédent. Et là, Céleste, tu viens nous présenter cette semaine-là, cette semaine de prévention du suicide, une semaine de prévention importante. Quel est le thème cette année?
Écoute, on est rendu à la 36e édition quand même de la Semaine nationale de la prévention du suicide. Je sais pas si tout le monde le sait, elle se termine le 7 février, c'est du 1 au 7. Puis le thème, c'est un thème unique à la région. Donc, c'est « Ensemble, tissons l'espoir ». Puis je pense que le thème parle de lui-même. Oh, wow. Tout le monde peut comprendre pourquoi on a choisi ce thème-là.
Ben puis ça fait le lien avec le filet de sécurité qu'on parlait dans le bloc, cette idée.
Oui, hein?
Oh, wow! Ouais, vraiment.
On voit que t'as compris, là. Tu sais, il y a un lien avec tout ça, là.
Il y a des activités pendant cette semaine?
Oui, tout à fait.
Veux-tu les présenter?
Ben, ça va me faire plaisir. Fait que la campagne, dans le fond, le CPS, le Centre de prévention du suicide, on invite, puis je dirais, on a commencé même avant la semaine du 1 au 7, là, à préparer cette semaine-là. Fait qu'on on a invité la population puis à ses partenaires, nos partenaires, à poser un geste porteur d'espoir. Puis il y a eu plusieurs choix pour la population et les partenaires, comme par exemple partager du matériel promotionnel dans leur milieu. Donc on avait envoyé un formulaire à plusieurs milieux, tu sais, comme les municipalités, des organisations communautaires, des milieux formés sentinelles, les milieux scolaires, etc. Ils ont pu commander du matériel qui était gratuit pour le recevoir. Puis là, justement, ils sont en train de le recevoir, ils sont en train de le distribuer dans leur milieu pour propager. Tu sais, c'est un geste porteur d'espoir. Sinon, il y a téléchargé des outils de sensibilisation, des fiches d'activité clés en main, des contenus pour les réseaux sociaux qui sont sur notre site Internet, téléchargeables et encore là, gratuits. Des outils adaptés aux milieux qui sont formés sentinelles. Pendant la semaine de prévention du suicide, on a concentré une panoplie d'activités, là, comme on a parlé tout à l'heure des kiosques. En fait, on en fait dans plusieurs endroits, comme à la fête de la famille hivernale à Mascouche, le samedi le 7 février. Donc, ça, c'est ouvert à tous et toutes. Au salon chasse et pêche qui se fait aux galeries de Joliette du 6 au 8 février. Donc, si les gens ils veulent venir nous voir, on va être
J'aime,
là.
J'aime, Céleste, l'effet, oui. À quel point c'est varié, tu sais, entre l'effet fête de la famille et salon chasse et pêche, parce que effectivement, on veut ratisser large, là, tout le monde peut être touché par la question du suicide. Donc, en tout cas, l'exemple, là, je trouvais que les deux les deux présentations nous montraient cette ampleur-là.
C'est parlant, là.
Ah oui, vraiment.
Aussi, on va faire un brunch conférence pour nos, pas pour nous, mais pour des endeuillés par suicide, des personnes endeuillées par suicide. Une conférence pour les milieux sentinelles, un atelier de sensibilisation pour certains employés du CIS de la Nodière, une formation à des intervenants de divers milieux. Puis on offre plusieurs rencontres et discussions de groupe sur nos services. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, le service et la problématique du suicide. Fait qu'on a concentré vraiment plein d'activités pour souligner cette semaine-là.
C'est dans le fond, cette semaine-là permet de mettre vraiment le focus avec l'ampleur et la quantité des activités. Vraiment, on souhaite démystifier, on souhaite prévenir. Ouais. On dirait que quand je savais que vous alliez venir à l'émission, je me disais... Mais comment ça qu'en 2026, on doit encore faire une semaine de prévention du suicide alors que me semble qu'on en parle beaucoup. J'ai comme envie de dire comment ça?
Je trouve que ta question est vraiment bonne, puis probablement qu'il y a d'autres personnes qui se posent cette question-là. Que, tu sais, dans le fond, ce que j'avais envie de te répondre, puis Joyce, tu pourras ajouter puis compléter si tu veux. Là. Dans le fond, le suicide, c'est une problématique qui est complexe, c'est multifactoriel. Donc, effectivement, qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui croient, puis on en a parlé aussi tout à l'heure, là, que parler du suicide, ça peut encourager le passage à l'acte, qu'il y en a qui ont de la difficulté d'aller chercher de l'aide. Fait que tu sais, des mythes, peut-être, qui sont encore dans notre société. Encore aujourd'hui, c'est important d'informer ou de rappeler à la population qu'il existe des signes de détresse qui permettent de reconnaître une personne qui va pas bien. Puis que même le sujet peut être difficile à aborder, c'est en parlant du suicide qu'on peut réellement aider quelqu'un. Demander directement à une personne qui, si elle pense au suicide, ça peut pas provoquer le passage à l'acte. Au contraire, ça ouvre la porte là, à l'expression de sa souffrance. C'est un premier pas pour recevoir de l'aide.
Je pense que ça, c'est tellement important à dire. C'est de briser le tabou. Puis c'est drôle parce que là, je t'écoute, puis on dirait que ça va aussi avec la société de performance dans laquelle on est. Hein. Si t'es performant, ben t'es fort. Si t'es fort, ben tu parles pas de suicide. Je me dis, pourtant, mon Dieu, on en parle, mais on sent encore les impacts de cette pression-là sont constamment présentes. Fait que ça alimente, on dirait. Puis là, la manière que tu l'amènes, là, me le fait voir encore plus clairement. Prendre
super
soin
intéressant. Oui, c'est important.
Dans le fond, comme Céleste le disait, c'est multifactoriel. Fait que dans le fond, c'est pas étonnant que des gens vivent de la détresse dans notre société. Peu importe l'âge, peu importe ce qu'ils vivent, on est fort et vulnérable à la fois, dans le fond, comme être humain. Puis par moment, on est plus dans une zone, puis d'autres moments dans d'autres zones. Mais dans le fond, souvent, on a de la difficulté à reconnaître ses propres faiblesses, puis de voir aussi celles des gens qui nous entourent, c'est pas évident. Fait que parler d'une semaine de prévention du suicide, ben, c'est de tenir des activités, tout ça, ben, ça permet des fois de déguiser un peu le regard des gens là, à être attentif autour de soi, là, parce qu'on n'a jamais envie de parler de comment ça peut aller mal à quelqu'un de notre entourage. On veut pas que les gens qu'on aime, qui nous entourent, souffrent c'est vraiment pas évident à traverser, autant pour ceux qui entourent la personne qui est en détresse que la personne elle-même, là. Fait que des fois, justement, de transmettre des informations, des outils, des ressources, ça peut vraiment être le petit coup de pouce, là, qui va permettre que quelqu'un se mette en action aussi, là, pour...
Ouais, qui va vraiment faire la différence, en fait.
Oui, oui.
Et si on veut rentrer en contact avec le centre de prévention du suicide, parce que là, oui, il y a la semaine, mais c'est toute l'année, là. Comment on fait? Tantôt, on parlait de la chaîne de gars sur YouTube. Vous avez un site web où il y a tout le matériel. Est-ce que, Céleste, tu veux nous dire vraiment le site web, là, mettons qu'on vous cherche. J'imagine qu'on peut écrire dans Google CPS Lanaudière, mais sinon, votre adresse.
Oui, CPS Lanaudière, tout à fait. Mais effectivement que le cœur, la façon de nous joindre, la façon de demander de l'aide ou des services ou juste de poser une question, c'est vraiment notre numéro, la ligne d'intervention. Fait que le 1-866 s'appelle 1-866-277-3553. Puis on a la ligne locale pour ceux qui sont dans Lanaudière, 450-759-616. Fait que c'est vraiment le cœur, la façon de faire. Vous prenez pas la place de quelqu'un d'autre, vous pouvez appeler. Puis c'est 24/7.
Fait que c'est ça, ce que tu dis là, c'est important, Céleste. Pas besoin d'être en situation de crise où des fois on veut se renseigner, on veut savoir quoi dire, quoi faire. Tous les appels sont bons, là.
Oui, c'est la porte d'entrée pour toutes les demandes. Il y a plusieurs lignes. Fait que c'est quelqu'un qui est en détresse, il y a sa ligne à lui ou à elle. Si tu as des questions, il y a une autre ligne. Fait que vous prenez pas la place de quelqu'un qui va pas bien. Vous pouvez appeler.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire le tour d'horizon, autant du centre de prévention du suicide que de la semaine de prévention du suicide. Puis si au courant de l'année, il y a d'autres éléments que vous avez envie de venir nous partager, lancement de projet, une initiative, vous êtes vraiment les bienvenus à l'émission C'est ça la com. Merci d'avoir été là.
Merci,
Hugo.
Remercions, Hugo.
Papa, quand est-ce qu'on rentre à l'école?
Dans quelques temps, ça ira mieux. On se reprendra dans les bras, un peu plus léger et heureux. Et enfin, on s'embrassera. Encore et encore de plus belle, à se dire que la vie est belle. Faut toujours que les choses nous échappent, pour qu'on les retienne, les rattrape.
Quand est-ce qu'on rentre à l'école?
En quelques temps ça ira mieux, enfin on se dira bonjour, avec un sourire dans les yeux, pas futile comme les anciens jours. On prendra soin de nos amis, de nos amours, de notre vie. Toutes ces choses que l'on oublie, à trop se dire que c'est acquis. Dans quelques temps ça ira mieux, et tous ensemble on chantera. Mieux, bientôt on se retrouvera, avec l'espoir de vivre vieux, et plus fort on se serrera. Pour un peu on prendra conscience, de ce qu'on a, de cette chance. C'est toujours quand on ne l'a plus, qu'on désire ce qu'on a perdu. Dans quelques temps ça ira mieux, et tous ensemble on chantera. Ça ira mieux, on se reprendra dans les bras, un peu plus léger et heureux, c'est si fort qu'on se serrera.
Merci d'avoir été avec nous pour cette émission de C'est ça la cas. Je vous invite à rejoindre notre campagne de mobilisation C'est ça la cas. Vous allez toutes trouver les informations au troquel.org/mob et aussi sur notre page facebook.com/troquel. Si vous croyez que l'action communautaire autonome et ses organismes, c'est important, vous pouvez aussi inviter les gens à embarquer dans la campagne en écrivant un message sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve mercredi prochain pour une autre émission de C'est ça la cas.